1517, 95 thèses. 2017, 95 émissions. 500 ans de réforme. Protestants 2017. Vivre la fraternité.
Bonjour à tous. Le monde protestant fête donc le 500e anniversaire de la réforme. Que se passe-t-il à ce sujet dans les pays qui nous entourent ? Que fait-on, par exemple, à Genève, dans la cité de Calvin, pour l'anniversaire de Luther? C'est à Gabriel de Montmollin que nous posons la question. Il est directeur du Musée international de la Réforme et a préparé une exposition qui s'est ouverte le 4 juin et durera jusqu'au 31 octobre, qui est la date de publication des 95 thèses de Luther. L'exposition s'appelle « Print » plutôt que « Presse » pour attirer un public plus international, sans doute. Et comment se présente cette exposition, Gabriel ? Bonjour.
Oui, bonjour, bonjour. Comment se présente l'exposition ? Eh bien, donc, dans la cour du Musée international de la Réforme, recouverte pour l'occasion, nous dressons une presse de Gutenberg géante, de 3 mètres de haut, de 400 kilos de poids et que l'on fait fonctionner avec les visiteurs pour qu'ils impriment pendant 130 jours une Bible contemporaine au format d'une Bible ancienne, l'idée étant de montrer l'impact de l'imprimerie sur la réforme, faire comprendre ce qu'est la mécanique en fait qui a permis la réforme et sans laquelle effectivement on ne connaîtrait vraisemblablement pas le protestantisme aujourd'hui.
L'invention de Gutenberg a favorisé l'expansion de la réforme.
Oui, complètement. C'est une idée qui m'est venue en réfléchissant à un projet d'exposition pour le Musée international de la Réforme et en lisant des dossiers sur les noms de synthèse, les 95 thèses de Luther, j'ai observé qu'au début, elles n'étaient pas du tout prévues pour connaître une pareille diffusion, et que c'est parce que l'imprimerie s'en était saisie qu'elles avaient effectivement eu l'impact imprévu qu'elles ont eu, et cela avait surpris Luther, qui ne s'attendait pas à pareil succès. Donc en fait, je me suis dit, à partir de là, évidemment, l'imprimerie a eu un rôle déterminant qui n'était pas forcément attendu par les réformateurs, qui, à un moment donné, se sont pris au jeu et ont utilisé l'imprimerie pour diffuser largement leurs écrits, ce qui a incontestablement favorisé le succès de la réforme. On dit que du vivant de Luther, environ 20 millions de personnes ont eu connaissance de ses idées grâce à l'imprimerie.
Et la Bible que vous allez imprimer, c'est une Bible qui a été écrite assez récemment, puisque c'est ce qu'on appelait la Bible des écrivains, qui est parue en 2001, et qui a été publiée chez Bayard.
Alors, on a obtenu des éditions Bayard de pouvoir reproduire ce texte au format d'une Bible du XVIe siècle. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi ce texte ? C'est parce que un des objectifs des réformateurs, c'était de diffuser très largement la Bible pour que chacun puisse la comprendre dans sa propre langue. Et donc, il nous a semblé intéressant pour cet anniversaire de faire paraître une Bible ou de reproduire une Bible que chacun peut comprendre dans sa langue, puisque c'est en fait la Bible des écrivains, donc la version la plus contemporaine qui puisse exister aujourd'hui sur le marché des Bibles.
Parmi les écrivains qui ont travaillé sur cette traduction, ils sont aidés d'ailleurs par des biblistes, si on peut dire, parce que ces écrivains ne connaissent pas forcément l'hébreu ou le grec. Il y a Emmanuel Carrère, il y a Florence Delay, il y a les Echenaux, ce sont vraiment des écrivains connus.
Ce sont des écrivains très connus qui ont travaillé effectivement avec des exégètes protestants ou catholiques qui font référence sur les livres bibliques qu'ils ont traduits. Et c'est ce qui donne à ces textes une portée, on va dire, littéraire, poétique, et historique tout à fait intéressante. Donc c'est un des aspects de cette exposition. Donc nous imprimons à peu près 8 pages par jour au musée de cette Bible, en commençant par la Genèse pour aller jusqu'à l'Apocalypse, et nous l'illustrons également avec 4 artistes contemporains majeurs internationaux qui vivent à Genève, parce qu'on veut aussi entrer dans la logique des Bibles du XVIe qui étaient merveilleusement illustrées par des artistes comme Cranach ou Holbein. Donc on entre vraiment dans une logique similaire. Maintenant, on ne fait pas que ça, puisque plus largement, on présente quelques éléments de la galaxie Gutenberg, comme on l'appelle, avec la présentation dans une autre salle du musée de 17 best-sellers du XVIe siècle, de livres qui ont largement compté dans l'évolution des mentalités au XVIe siècle, parmi lesquels des Bibles, mais aussi des textes fameux de Luther, des sermons, la Bible de décembre, mais également le placard de Marcourt, le fameux placard de Marcourt, et des livres, alors on va dire plus largement de la littérature, de science, de la recherche, telle par exemple des premières éditions des Essais de Montaigne, une merveilleuse édition de Pantagruel de Rabelais. Et donc tout cela pour montrer que la Réforme s'inscrit dans un mouvement qui la dépasse, mais qui a énormément compté aussi pour son succès.
Cette exposition a donc lieu au Musée international de la Réforme, et donc à Genève. Et on peut aussi dire que la Réforme a aidé à l'imprimerie à Genève et en Suisse, n'est-ce pas ?
Alors à partir de 1550, grâce au fait aux réfugiés français qui se sont tous rendus à Genève, enfin pour une grande partie d'entre eux, et bien dès 1550, on a compté plus de 160 imprimeurs et libraires, notamment venus de France, ce qui fait que à peu près un habitant sur 100 était imprimeur ou libraire à Genève à cette époque. Et Genève est devenue, en tout cas pour la deuxième moitié du XVIe siècle, un des centres mondiaux de l'imprimerie et du livre, mais pas n'importe quel livre, puis c'était les livres réformés qui étaient diffusés sous le manteau en France, et chaque personne qui venait de Genève en France était immédiatement suspect de colporter des idées funestes. Mais effectivement, Genève a été et est restée assez longtemps effectivement un grand centre de l'imprimerie et de l'édition, grâce, entre guillemets, au refuge français.
Et Calvin a suscité aussi à Genève l'intérêt pour la lecture, et il a créé une académie pour que les gens apprennent à lire.
C'était bien le but de la Sola Scriptura. D'ailleurs, notre exposition s'inscrit dans cette logique de la Sola Scriptura, c'est-à-dire que chacun doit pouvoir lire la Bible. Luther disait que les femmes de ménage, les bourgeois et les enfants doivent pouvoir avoir accès aux livres. C'est une orientation générale qui a été très largement reprise par Calvin, qui effectivement considérait qu'il fallait tout faire pour que chacun puisse devenir suffisamment autonome et éduqué pour avoir accès à la parole de Dieu. Donc c'était effectivement une pédagogie de la lecture très importante. D'ailleurs, avec la Réforme, on peut dire que le croyant devient en première priorité un lecteur. Donc c'est une religion de lecteur. Et c'est ce qu'on veut montrer bien largement aussi au MIR avec notre exposition.
Alors, Gabriel Momolin, je vais juste rappeler que le Musée international de la Réforme a ouvert cette exposition le 4 juin. Il durera jusqu'au 31 octobre. Elle est ouverte tous les jours, sauf le lundi.
Oui.
N'est-ce pas ? Et je vous remercie beaucoup, Gabriel de Montmolin, et je vous félicite aussi pour cette exposition dont j'ai eu la joie de voir le début. J'ai vu qu'effectivement, ça intéressait beaucoup de monde, et on peut partir ensuite avec une des pages imprimées.
Voilà. Oui, ça, c'est le cadeau, c'est la cerise sur le gâteau. Chacun peut imprimer une page de la Bible et avoir ainsi participé au projet global qui débouchera sur l'édition d'un objet unique, une Sola Scriptura magistrale, le 31 octobre.
Voilà. Gabriel de Montmolin, je vous remercie.
Merci à vous.
1517, 95 thèses. 2017, 95 émissions. 500 ans de réforme. Protestants 2017. Vivre la fraternité.